appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait...
Moi, c'est André Dimboudi, au Kassai Oriental. J'ai réfuté totalement ce qui...
Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux acquis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Parole aux auditeurs. Situation sécuritaire Nord Kivu, plusieurs positions de l'armée congolaise et ses partenaires ont de nouveau été ciblés par des bombes larguées depuis les collines occupées par les rebelles du M23 dans la zone de Mubambiro, territoire des Massissi. C'était pendant les violents affrontements qui ont opposé hier mardi ces rebelles au FRDC et les groupes locaux. Les sources diversifiées dans la zone parlent de quelques victimes civiles. Pendant ce temps, la situation humanitaire s'est détériore davantage. Que pensez-vous de la situation sécuritaire et humanitaire qui prévaut actuellement au Nord Kivu? C'est autour de cette question que nous allons échanger pendant environ 55 minutes dans ce nouveau numéro des Paroles aux auditeurs. Vos réactions sont les bienvenues sur la page Facebook Paroles aux auditeurs. Vous pouvez aussi intervenir en direct en composant les 081 890 63 30 ou les 081 890 49 69. Jean-Noël Mokondo est à la mise en onde de ce magazine et Blaise Chindani en assure la réalisation et la coordination. À la présentation, Guy Maté.
Votre connexion Internet est trop lente? Radio Okapi.net vous propose un service gratuit. Les alertes ML. Toute l'actualité de la RDC, le sport, la politique, l'économie, la culture et les offres d'emploi. Faites votre choix, vous recevrez chaque soir les infos dans votre boîte mail. Les alertes mail, c'est gratuit. Radio-Okapi.net, à votre service. Parole aux auditeurs, pour participer, 081 890 63 15 ou par internet pa@radio-okapi.net.
Encore une fois, bienvenue dans ces nouveaux numéros de Paroles aux auditeurs et merci à tous ceux qui ont réagi sur la page Facebook et aussi qui se sont inscrits pour réagir. Je rappelle que nous parlons aujourd'hui de la situation sécuritaire au Nord Kivu où plusieurs positions de l'armée congolaise et ses partenaires ont de nouveau été ciblées par des bombes larguées depuis les collines occupées par les rebelles du M23 dans la zone des Mubambiro, territoire des Massissi. C'était pendant les violents affrontements qui ont opposé hier mardi ces rebelles du M23 au FRDC et les groupes locaux. Les sources diversifiées dans la zone parlent de quelques victimes civiles. Pendant ces temps, la situation humanitaire se détériore davantage. Pour commenter ces sujets, nous recevons en ligne Jean-Baptiste Mouindo Kasekwa. Il est député national honoraire et un des notables de Goma au Nord Kivu. Il est secrétaire général adjoint de l'HCD, parti membre de la coalition Lamuka. Il était membre de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale pendant la législature 2018-2023. Bonjour Jean-Baptiste Mouindo Kasekwa.
Bonjour Guy Maté.
Voilà, vous qui êtes sur le terrain au Nord Kivu, comment se présente la situation sécuritaire et humanitaire dans cette province au moment où nous parlons?
Alors, je vous parle à partir de Kanyabayonga. Je suis présentement à Kanyabayonga où je suis arrivé depuis vendredi dernier. En passant par Kampala, Kasindi, Beni, Butembo, et puis Butembo, Kirumba, Kanyabayonga. Je suis venu parce que j'étais très très inquiet du fait de l'occupation par l'ennemi des localités des agglomérations telles que Nyanzale, Kikuku, Bualanda, Kirima, Kibirizi, Ruindi, Vichumbi. Dans ces agglomérations-là, vivaient des déplacés qui, depuis longtemps, avaient fui Bambo Kishishe et qui étaient cantonnés à Kibirizi et à Nyanzale, des déplacés qui avaient fui Kichanga, Mweso, Kashuga, Ibua et étaient cantonnés à Ibua et ils ont fui maintenant, tous sont concentrés, une bonne partie est à Kanyabayonga, les autres sont à Lusoa. D'autres déplacés sont à Bulotwa, à Kaina, à Kirumba jusqu'à Kassé. Certains sont passés de la Ruindi par Vichumbi, de Vichumbi jusqu'à Kamandilak, jusqu'au village qui serait là, de Kamandilak jusqu'à Dalia, à Lunyasenge. D'autres dans les montagnes de Kamandijit et à Kikuo. Donc toute cette zone est pleine
fait tout ce déplacé là. Et je suis donc venu pour me rendre compte de leur situation. Eh bien, Guimaté, la situation est extrêmement grave. Des compatriotes sont en train de mourir ici, hors caméra. Il est vrai que déjà, les conditions de déplacer dans des camps autour de Goma, dans des camps de Boulengo à Sake, pour se déplacer venir de Sake, qui sont à Kanyabuchina, souffrent énormément. Mais les déplacés qui sont ici, hors des caméras des ONG, et hors des caméras du gouvernement, sont exposés à un péril immense. Je prends par exemple la situation humanitaire à Kanyabayonga, où je suis. Le plus grand problème qui va entraîner la mort de plusieurs compatriotes, c'est le problème d'accès à l'eau potable. Il n'y a pas d'eau dans la cité, dans la commune de Kanyabayonga, tout comme dans les groupements de Kanyabayonga. Il n'y a pas d'eau. Kanyabayonga, c'est à la frontière entre Mtsuru et Lubero lorsque vous quittez Rwindi pour aller vers Butembo. Les populations se réveillent à 2h, à 3h. J'ai retrouvé une colonne de 500 personnes devant une borne fontaine. Et à 8h, on dit que le puits avait été installé par une ONG. Le puits est épuisé, il n'y a plus d'eau. Et des populations sont obligées de retourner sans trouver de l'eau à boire, sans trouver de l'eau pour se laver. Et donc les femmes, les filles ne savent pas trouver de l'eau pour se laver, tout comme tout le monde. Il n'y a pas d'eau pour faire la cuisson, pas d'eau pour se laver. Les gens se rabattent, même les familles des militaires, je les ai retrouvées. Vous savez qu'Anyabayonga est sur des montagnes. Il y a des vallées dans lesquelles coulent des eaux sales. Ce sont ces eaux sales auxquelles la population se rabat et le risque de maladies diarrhéiques, de maladies liées au manque d'hygiène est très très élevé. Non seulement à Kanyabayonga, la même situation s'observe à Vichumbi qui est occupé par l'ennemi. Vichumbi était ravitaillé en eau à partir de Mnyasenge, à partir de Kanyabayonga. Mais maintenant, il n'y a plus de ravitaillement en eau potable vers Vichumbi et les populations sont obligées de boire l'eau du lac sans aucun produit pour le traiter. Même situation à Kamandila, qui est une très grande agglomération. Je m'entretenais avec la société civile qui a dénombré pas moins de 3000 ménages concentrés de déplacés à Kamandila. Il n'y a pas d'eau également. Là, la population boit l'eau du lac. Et donc le premier défi ici, c'est l'eau potable. Et la demande, c'est que de toute urgence, le gouvernement trouve des solutions pour que rapidement on creuse des puits dans la cité, qu'on déploie des camions citernes qui peuvent ramener l'eau à partir des rivières, des Luolu, des Kassé, et qu'on installe des citernes, des bornes dans les cités, à Kanyabayonga, autour, même à Kamandi, pour que les populations puissent accéder à l'eau. Non seulement à Kanyabayonga, c'est pareil à Lusoa, c'est pareil à Bouloto, c'est pareil dans toutes les cités, mais avec beaucoup plus d'acuité, la situation est tellement grave à commune de Kanyabayonga et à groupement, parce que c'est la porte d'entrée, la porte d'accès de tous les déplacés, venus de Guito, venus de Rwindi, sans oublier que ces déplacés-là sont les mêmes qui avaient déjà fui Roubaré, qui avait fui Tiwanza, qui fuit à plusieurs reprises, qui avait déjà fui Bambo, qui chichait et qui se retrouve maintenant exaspéré dans cette idée. Le deuxième défi, oui, Guy.
Oui, honorable, vous venez d'évoquer la situation difficile, n'est-ce pas, de toutes ces populations déplacées. Alors, ce qu'on voudrait savoir, c'est lorsque ces gens qui sont en perpétuel mouvement, en perpétuel déplacement, Lorsqu'ils se déplacent, est-ce qu'il y a des structures qui les orientent, qui leur montrent là où ces populations peuvent aller, n'est-ce pas, s'abriter? Et est-ce qu'il y a des autorités auprès desquelles ces populations, quand elles font face à des difficultés comme ce que vous venez d'évoquer, d'accès à l'eau potable, est-ce qu'il y a des autorités auprès desquelles ces populations peuvent aller se référer? Allô? Voilà, apparemment nous avons perdu. Voilà. On tente de de les rappeler. Et là, ça nous permet, n'est-ce pas, de lire quelques réactions que nous avons reçues ce matin. Et au sujet toujours de ces impôts. Awa, il dit la situation sécuritaire et humanitaire qui prévaut au nom de la faillite totale des FRDC a démontré ses incapacités, c'est ce qu'il dit, hein, ses incapacités armées, bon ça je n'ai pas bien compris, à éradiquer cet activisme par imposition des forces armées. Par conséquent, la dynamique de la complexité de cette guérilla rebelle met la RDC à une posture complexe et stratégique. Cette négociation va porter sur quoi face à l'occupation rebelle des zones où les matières premières leur font bénéficier voilà, aux rebelles des avantages. Ça, c'est notre ami Marie-Paul Awa. Et est-ce que le député est en ligne? Allô? Voilà. Et on me dit que nous avons déjà quelques auditeurs qui veulent intervenir. Et en ligne, on me dit qu'il y a Roger Matisse qui veut intervenir depuis la ville de Kinshasa. Roger Matisse, bonjour.
Tous les auditeurs de la radio de la paix.
Voilà, Roger Matisse, qu'est-ce que vous avez à dire au sujet de l'émission, du sujet de ce matin?
Bon, merci beaucoup pour la thématique du jour. Je viens un peu d'écouter un peu M. Jean-Baptiste Kasseko. Vous savez que M. Jean-Baptiste Kasseko, il est de l'opposition. Parce qu'on cherche l'opposition quand il y a un cas. De leur côté, on voit si mal. Je pense que le moment que nos compatriotes traversent vraiment, c'est un moment vraiment difficile, qui est vraiment inquiétable. Ça fait vraiment mal de voir un peu nos citoyens dans des moments comme ça. Donc, on pouvait quand même voir quand même notre État quand même intervenir un peu dans des situations comme ça. Parce qu'on voit même dans notre pays, il y a quand même de la guerre, il y a quand même des gens, qui achètent avec de l'eau, même avec des vitres, ou avec même des produits pharmaceutiques. Mais voir quand même des images avec ce qui se passe quand même, c'est vraiment déplorable. Moi, je pense qu'à ce niveau-là, quand même, l'État congolais pouvait quand même changer un peu des stratégies. Parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'on commence toujours à se déplorer avec les choses qui se passent vraiment à l'est de notre pays. Et je pense quand même que le chef de l'État pouvait quand même changer un peu de stratégie, en changeant même des généraux quand même, en changeant même mettre un peu des gens quand même qui connaissent quand même le terrain. Parce qu'on ne fait pas toujours à tout moment en train de plaisir contre un petit pays comme Rwanda. En Rwanda, si vous regardez même la population du Rwanda, même l'effectif même de l'armée du Rwanda ne dépasse pas notre effectif. Mais pourquoi à ce moment on se déplore toujours? Dernièrement, avec les sorties du chef de l'État, il avait dit, et il pouvait quand même chercher de dialoguer avec Paul Kagame. Mais on se demande jusqu'à ce niveau, ils sont à quel niveau quand même? Je pense quand même que si notre gouvernement pouvait quand même aller avec les choses le plus vite, parce qu'on ne fait pas toujours à tout moment, à chaque jour, on perd nos mecs quand même et nos compatriotes et ça. Ça sera vraiment regrettable quand même.
Merci, merci Matisse.
Oui, monsieur Guy Matisse.
Merci Roger Matisse, on a compris votre réflexion. On me signale que l'invité Jean-Baptiste Kasseko est de nouveau en ligne. Honorable, vous êtes là?
Oui, je suis en ligne.
Voilà, j'ai vous posé la question de savoir, face à ces drames humanitaires, et ces populations civiles qui sont en perpétuel mouvement, en perpétuel déplacement, est-ce qu'il y a des structures qui les orientent, qui leur montrent là où elles peuvent aller s'abriter? Est-ce qu'il y a des autorités sur place, des autorités auxquelles, si il y a un problème, comme ce que vous venez d'évoquer, les problèmes d'accès à l'eau potable, est-ce qu'il y a ces autorités-là auxquelles ces populations peuvent se référer pour tant soit peut trouver la solution?
Alors, les autorités locales sont débordées. Kanyabayonga est composé de deux entités. Il y a la partie groupement de Kanyabayonga qui fait partie de la chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru. C'est une entité sans budget, sans moyens. Mais également, il y a la partie Kanyabayonga commune qui fait partie du territoire de Lubero. Kanyabayonga n'a pas de budget non plus, non seulement Kanyabayonga, mais c'est la situation de toutes les communes de Kaina, de Kirumba, toutes les communes de Owicha, territoire de Beni. Le bourgmestre, il est contraint
de voir surtout toutes les personnes qui sont tuées à Beni être ramenées comme des colis sur des motos, être enterrées. Le gouvernement ne peut même pas apporter la moindre assistance, même à Cercueil. Donc ici, l'autorité est absente, non seulement le gouvernement central, mais ce sont des petites questions auxquelles l'autorité provinciale, les gouverneurs militaires, qui pouvaient apporter des solutions. Je suis passé par Boutembo, je vois tous les services de l'État, armée, ANER, la mairie et autres sont mobilisés dans une opération de bouclage pour exiger à chaque propriétaire de véhicules payer $20 par véhicule, enregistrement de vitres teintées, avec une amende de $100 et de $10 par parti, à Goma, Goma, Boutembo, à Beni. Ce sont des sommes énormes. On ne sait pas toutes ces sommes-là sont destinées à quoi. Il n'y a pas que ça. Donc, même l'autorité provinciale est absente, mais il est impliqué. Elle est ailleurs. Donc, il n'y a pas d'autorité. Alors, si vous permettez, à côté du défi de manque d'eau qui occasionne une situation où les populations sont dépourvues, vous les retrouvez meurtries, il y a le problème de l'insécurité alimentaire aggravée. Toutes les routes d'approvisionnement de Kanyabayonga, Kirumba sont bloquées. La route Kiwanja, Ruindi Kanyabayonga. La route Kibirizi, Ruindi Kanyabayonga. La route Bichumi Kanyabayonga qui amène des poissons. Il n'y a que l'axe Kanyabayonga Musoa qui amène une protection insignifiante. Les populations espéraient avoir des vivres à partir de leurs champs. Du côté Kamandi, la frontière avec le lac. Mais là aussi, l'ICCN procède à une chasse sans pitié des populations de leur champ. Les populations ne peuvent pas aller cultiver du côté ouest vers Miriki parce que la zone est infestée de groupes armés. La population est dans une angoisse. Elle ne peut pas fuir non plus vers Beni parce qu'à Beni, il y a des massacres à répétition. Du coup, il y a rareté des tarifs alimentaires sur le marché de Kanyabayonga, Kirumba, Kassé et dans toutes ces zones. Et j'ai été dans une famille à Kanyabayonga, une famille qui a accueilli 25 personnes déplacées. S'ils venaient de passer deux jours sans trouver à manger, et à peine ils venaient de trouver une mesure de farine de maïs, ils étaient en train de faire du poto-poto, de la bouillie, pour que le plus petit prennent de la bouillie, mais les adultes n'ont plus rien. Et donc, vous trouvez les gens appauvris. Non seulement ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de quoi manger, mais également un problème de manque de soins de santé. Je suis passé dans une... Oui.
Oui. N'est-il pas possible, comme cela s'est fait ailleurs, et dans des zones de conflit, qu'avec, n'est-ce pas, les pressions des grandes puissances, que les belligérants puissent observer ce qu'on appelle une trêve humanitaire, pourvu, n'est-ce pas, qu'on sauve la vie de ces millions de personnes déplacées. N'est-il pas possible d'observer une trêve humanitaire?
Il y a extrême urgence, je ne saurais pas parler de trêve, mais ne serait-ce qu'un couloir humanitaire. J'ai trouvé une personne qui pleurait parce que le gouvernement a envoyé une assistance extrêmement dérisoire. Vous vous imaginez qu'un petit sachet de sel, un paquet, je ne sais pas, de 50 grammes, partagé, distribué à 4 ménages. Et par ménage, le déplacé, on donne 1 kilo de haricots, 1 kilo de farine de maïs. Et c'est tout. Depuis qu'ils sont déplacés, on ne sait pas quand est-ce que l'autre quantité pourrait être donnée. Alors j'ai rencontré un papa qui avait les larmes aux yeux, qui était chez Fouy Kibirizi, j'ai laissé 12 sacs de maïs dans ma maison. Et je n'avais pas encore fini de récolter tout mon champ. Il y a des récoltes partout à Kibirizi comme à Kiwanja. Comment je peux venir être clochardisé pour recevoir un kilo et un quart de paquet de sachets,
merci,
comme un mendiant, alors que les ennemis occupent ma terre. Donc, si une formule était trouvée pour que ces populations acceptent à leur vivre, eh bien, ça soulagerait tant soit peu, mais la solution idéale, c'est que l'on libère ces zones gratuitement et que les populations s'y étalent. Mais mais également en attendant, pour les, je demande que le gouvernement ordonne à l'ICCN d'observer un moratoire pour ne pas expulser les agriculteurs de leurs champs des Kamandi du lac, en attendant que la paix revienne et qu'un dialogue entre ICCN et population riveraine du parc soit trouvé, soit organisé pour décanter la question des limites du parc. Mais pendant que les populations sont désastrées et que l'ICCN se mette à nouveau à chasser ceux-là qui cultivent leurs champs autour de Kanyabayonga, de Kamandi, de Bunyasenge, au motif que l'ICCN veut recouvrir les limites du parc, le moment n'est pas bon. Que le gouvernement ordonne un moratoire parce que ces populations-là ne vont pas accepter mourir en ayant abandonné leurs récoltes dans les limites avec le parc.
Merci, honorable.
C'est une solution palliative.
Voilà, on vous garde dans cette émission. On ouvre de nouveau le standard. On va donc écouter Peter Maboudi qui est en ligne, qui intervient depuis Kinshasa. Peter Maboudi, bonjour.
Bonjour Guy, bonjour à l'invité ainsi qu'à tous les frères de Radio Capi.
Voilà, on vous écoute, Peter Maboudi.
Merci, monsieur Guy, pour nous avoir associé à cet échange. La situation sécuritaire de l'Est, également, qui fait qu'aujourd'hui, même sur le plan humanitaire, ça peut s'aggraver. Selon moi, après plusieurs interventions, plusieurs analyses, plusieurs échanges, nous avons constaté qu'il y a l'ambiguïté, c'est la vraie raison de ce qui se passe à l'Est. D'une part, les autorités que nous avons sur le plan communicationnel, et sur le plan technique des opérations qui sont menées à l'est du pays. Comme tout pays en conflit ou en guerre, monsieur Marcel, la situation humanitaire n'est que le résultat de ce qui se passe sur terrain comme opération. Cela doit être une évidence que dans toute situation de conflit, la crise humanitaire doit surgir. Mais on ne sait plus anticiper cette crise humanitaire quand bien même la situation est toujours tendue sur terrain. Et vous avez posé la question à l'invité, qui d'ailleurs était député national, durant 5 ans de son passage au niveau de l'hémicycle, je me pose, il fait que les détails, il donne le bilan de ce qu'il vit sur place, mais quand il était député, qu'est-ce qu'il aurait initié au niveau du Parlement pour la situation de l'Est, particulièrement qui touche tous les Congolais en général? Donc, il y a un problème d'opération, il y a un problème de communication de la part de nos dirigeants. Ils ne savent pas nous dire la vraie raison de ce qui se passe à l'Est. Quand bien même aujourd'hui, avec la levée du moratoire, certaines autorités s'opposent à ce lever du fait qu'ils sont impliqués dans ce genre de scénario qui se passe à l'Est. Et la vie humaine est sacrée, M. Marcel, mais je me suis toujours posé la question si nécessairement nos frères qui sont à l'Est bénéficient de cette disposition légale, sacrée même, de par la divinité de notre Créateur.
Merci.
Donc, ce qui se passe à l'Est, je crois qu'il y est temps que le gouvernement puisse s'y impliquer, trouver des solutions durables. Et également aussi, il y a un problème de choix des partenaires. Par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, le gouvernement doit être conséquent, et surtout les premiers citoyens que nous avons, doivent prendre des mesures, des décisions courageuses. Ou soit, on est des blocs de ceux qui soutiennent le Rwanda, ou soit on est des blocs de ceux qui doivent nous soutenir et trouver des solutions durables par rapport à notre situation. Quelle que soit la situation.
Merci Peter, on a compris ce que vous avez dit. Hein. On a compris parce que si vous monopolisez la parole, on n'a pas tout le temps. On va aussi donner la parole à d'autres. Voilà, je crois qu'il y a d'autres intervenants qui sont en ligne. Hein. Steve Baigwere, depuis Bukavu, est-ce qu'il est là?
Oui, je suis là. Je suis
voilà,
là,
Steve, bonjour.
Bon, moi, je voulais dire ceci. La RDC est la première responsable qui doit s'impliquer dans la recherche de la sécurité menacée dans la partie est de son territoire pour sauvegarder sa souveraineté menacée. Tout apport extérieur ne doit en aucun cas remettre le statut du pays en droit international qui repose sur son caractère souverain, qualité ontologique, décisive et exclusive qui fonde en droit international les principes d'égalité, d'indépendance, de non-ingérence et de libre consentement de l'État. Aujourd'hui, Bunagana est devenu un État dans un autre État. Ça donne matière à réflexion, M. Guy Mathieu. Laissez-moi atterrir. Nos dirigeants doivent s'asseoir ensemble, se regarder dans les yeux et se dire toutes les vérités au lieu de continuer toujours d'accuser les Rwandais sans passer à aucune action. La politique étrangère de la RDC souffre plus que sa politique intérieure, et lors de la résurgence du M23, nécessitant de répondre positivement par des moyens militaires qu'il faille acquérir à l'extérieur, l'État congolais a rencontré malheureusement d'obstacles pour acquérir la logistique militaire placée sous un régime de notification avant achat des armes. C'est un peu ça, M. Dimaté.
Merci beaucoup, Steve Baïgouiré. Vous intervenez depuis Bukavu. On a aussi Obed qui intervient depuis la ville de Kinshasa. Obed, bonjour.
Et bonjour Dimaté, bonjour à tous les auditeurs des Radio Capi. Je salue l'honorable Jean-Baptiste Moïno Kasekwa.
Voilà, votre point de vue par rapport à ces sujets.
Alors d'entrée déjà, j'avais d'abord une question à poser à l'honorable. Honorable, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez me rappeler si on est à la 4e escarmouche? Alors pour poursuivre, Dimaté, je pense qu'il y a une ambiguïté terrible dans cette histoire, dans cette guerre qui se passe à l'Est, parce que justement avec les images qui nous parviennent ici, c'est il faut être vautour ou soit extraterrestre pour ne pas avoir de la tristesse de voir comment est-ce que les sangs de nos confrères sont est en train justement de couler gratuitement pour juste une bêtise. Alors moi je pense que les responsabilités sont partagées, parce que si on essaie de réfléchir vraiment avec voilà toute objectivité, je pense que d'un côté nous avons le gouvernement congolais qui avec sa communication est trahi déjà. Parce qu'avec toutes les promesses qui ont été faites et qui sont faites et qui continueront à être faites, je pense que à la fois la RDC est traînée, est traînée devant les belligérants, parce qu'ils maîtrisent déjà les maudits vivendi ou soit encore les maudits operandi du gouvernement congolais face à cette situation. Et encore, je pense que si l'on voit depuis l'investiture du chef de l'État, le président de la République a déjà déclenché la saison des voyages, justement pour chercher des partenaires en vue de trouver solution face à cette situation. Mais jusque-là, je vis, quand le président de la République était ici par le premier ministre belge, son premier mot, c'était d'abord de chercher les sanctions contre les Rwandais. Mais bon, on se pose beaucoup de questions, mais c'est dit, Mathieu, c'est tout simplement parce que je n'aurai pas beaucoup d'états à la scène. Est-ce qu'à la fois la RDC, le gouvernement congolais, a d'autres raisons, ou soit privilégie d'autres relations avec les Rwandais, ou soit c'est la RDC qui tourne, ou le gouvernement congolais qui tourne son peuple en bourrique, ou soit ce sont les partenaires avec qui la RDC est entrée, justement, de trouver des solutions pour mettre fin à cette guerre. Ce sont ces partenaires qui tournent le gouvernement congolais en bourrique. Est-ce que dans cette guerre, en tout cas, qui tourne et qui en bourrique? Donc, on se trouve être délaissé, on ne sait plus quoi dire face à cette situation. Et qu'à cela ne tienne, permettez-moi, M. Dimaté, pour chuter. Je pense que aujourd'hui, si l'on essaie de voir comment est-ce que le gouvernement congolais est en train d'aborder cette situation. Justement, on a vu avec ce geste qui est devenu très célèbre de mettre la main sur la bouche et puis les débats à la carte. Mais on se pose justement la question, est-ce qu'un père de famille, en train de voir sa femme et ses enfants agressés par un voisin, au lieu de trouver des mesures très efficaces, mais comment, à quel niveau on peut toujours continuer à être planichard jusqu'à ces niveaux?
Obed, on a compris, Obed. Merci beaucoup. Merci, Obed. On revient à notre invité, Jean-Baptiste Mouindo Kasekwa. Vous avez suivi les interventions des différents intervenants. Roger Matisse depuis Kinshasa, Peter Maboudi depuis Kinshasa, Steve Baïgouéré depuis Bukavu, et Obed qui vient de parler depuis Kinshasa. Bon, ils se posent tous des questions. Hein. On sent même dans la préoccupation de Peter Maboudi, il insiste sur l'ambiguïté par rapport à la situation de l'Est. Et même Obed a semblé, n'est-ce pas, adopter ses points de vue. Il y aurait beaucoup d'ambiguïté. On ne comprend pas très très bien ce qui se passe sur le terrain. Il y a beaucoup de questions, n'est-ce pas, que l'opinion s'oppose, et plutôt se pose. Et Peter Maboudi vous a posé une autre question. Il demande qu'est-ce que vous avez fait vous pendant 5 ans quand vous étiez au Parlement, qu'est-ce que vous avez fait dans le sens, n'est-ce pas, de proposer des pistes de solutions pour tant soit peu ramener la paix dans la partie orientale du pays.
Merci pour toutes les préoccupations des compatriotes. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne saurais pas y revenir, mais ce que j'ai fait, c'est aussi ce que je suis en train de faire présentement. Je vous parle à partir de Kanyabayonga, parce que personnellement, moi, je suis né dans cette zone. Donc, lorsqu'on parle de Bambou, de Kishi, c'est là où il y a eu des massacres. C'est là où j'ai fait mon école primaire et une partie de mon école secondaire. Lorsqu'on parle de Nyanzale, de Kibirizi, c'est mon milieu de vie. Lorsqu'on parle de Kanyabayonga, Kaina, Kirumba, Kirumba, c'est là où j'ai obtenu mon diplôme d'État. Donc, la situation qui se passe ici me préoccupe, me touche au plus haut point. Ce sont des membres des familles, des compatriotes et Yafui, comme je l'ai dit, depuis Bunagana, Rubare, Rutshuru, Bambo, qui jusqu'à ce jour, qui se retrouvent maintenant à Kanyabayonga. Alors, ce que j'ai fait, c'est par exemple, présentement, lancer l'alerte pour informer les compatriotes de Kinshasa, de Lubumbashi, de la diaspora, de partout, pour dire il y a un péril ici. Mais à côté de cela, c'est faire des propositions. Les compatriotes qui sont intervenus ont effectivement souligné l'ambiguïté. Et que ici, dans la zone, les populations sont passées de l'ambiguïté à l'exaspération. L'état d'esprit de la population ici, c'est que Bunagana a été cédé par une stratégie de repli stratégique. Rubare, Rutshuru, Kiwanja ont été cédés par la même stratégie, repli stratégique. Nyanzale, Kirima, Bualanda, Kibirizi, Ruindi, Vitsumbi ont été cédés par repli stratégique. Et donc, l'opinion ici se dit, tous les territoires de Rutshuru, une grande partie de Masisi, de Nyiragongo viennent d'être cédés par repli stratégique. Et que si, par erreur, la même stratégie était adoptée ici, repli stratégique de Kanyabayonga Kirumba, c'est pour céder, l'ennemi va avancer pour conquérir cette zone sans combat. Repli stratégique de Kirumba cassé jusqu'à Butembo, les gens sont exaspérés, ne veulent plus attendre d'un repli stratégique qui serait consécutif, qui donnerait lieu à la progression de l'ennemi. Et c'est là que j'interpelle le chef de l'État. Pour que, parce qu'ici la population est convaincue que les militaires FARDC sont capables de battre les M23. Ils sont témoins de comment les commandos ont résisté à Kirima, de comment les commandos ont résisté à Nyanzale. Mais la population qui vit avec ces militaires, depuis Bunagana, Rubare jusqu'ici, qui écoute ce que les militaires disent, ils disent qu'il y a un problème au niveau de la chaîne de commandement qui ne joue pas franchi. On voit des commandants dans des hôtels entourés de cadres sur prostitution, des commandants qui vont sur la zone de front avec des matelas au-dessus de leur jupe, des commandants qui rentrent des ruines sans aucun signe de tristesse sur leur visage, alors que les cités viennent d'être cédés à l'ennemi. Donc pour la population, et j'interpelle donc le chef de l'État, pour que rapidement on prenne des mesures de manière à empêcher toute éventuelle progression de l'ennemi dans l'Ouberou, parce que une éventuelle repli stratégique nous exposerait à une confrontation entre population et armée, et cela ferait les lits de l'ennemi qui viendrait se présenter à sauveur, à libérateur.
Jean-Baptiste,
donc,
quoi?
Il verrait que la population serait en train de s'affronter à l'armée pour empêcher
Jean-Baptiste,
les éventuels défenses.
Voilà,
alors que la population veut voir son armée
Jean-Baptiste
aller sur la ligne de front, reconquérir Rutshuru, reconquérir Bunagana, reconquérir Masisi-Sake.
Jean-Baptiste, quoi? Vous n'allez pas monopoliser la parole, hein? C'est un échange avec les auditeurs, hein. Voilà, permettez qu'il y ait cet échange-là. Et voilà, vous évoquiez cette question des replis stratégiques, hein. Évidemment, il y a beaucoup de questions que les gens se posent au sujet de cette stratégie, cette tactique replis stratégique. C'est pourquoi même les auditeurs qui sont intervenus ici ont parlé de beaucoup d'ambiguïté, de beaucoup d'opacité. Il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas, n'est-ce pas, à cerner par rapport à la situation qui prévaut dans l'est de la RDC. Mais aussi, un autre aspect important, c'est par rapport à ces assez déplacés. Vous ne pensez pas, vous qui êtes sur ce terrain, que cette question des déplacés est devenue une sorte d'arme de guerre utilisée par justement les rebelles, hein? Ils peuvent, n'est-ce pas, acculer ces populations, les maintenir dans cette position de faiblesse, dans cette position de vulnérabilité, et comme ça, ils peuvent espérer, n'est-ce pas, obtenir une sorte de fatigue, et les gens vont se fatiguer, les gens peuvent devenir tellement vulnérables que au point où ils peuvent facilement mordre à l'hameçon, se laisser, n'est-ce pas, manipuler par des rebelles. Vous ne pensez pas que cette question de déplacer est devenue une arme de guerre pour la rébellion?
Oui, il y a vraiment extrême urgence pour que le gouvernement fasse en sorte que la population ne cède pas à la fatigue. Parce que comme je l'ai dit depuis Bounagana jusqu'à où nous sommes, toutes ces populations cantonnées dans des cas autour de Goma, de Kanyaoutchina, de Boulengo, même des conditions déplorables, des élèves qui ont vu leur scolarité interrompue n'étudient plus, et l'ennemi, l'occupant, fait un chantage pour dire l'ennemi interdit par exemple que les poissons quittent Vitsumbe pour Kanyabayonga, que des marchandises soient ramenées de Tibiris vers Kanyabayonga, mais l'ennemi veut que les populations retournent là-bas. Mais de l'autre côté, les FARDC qui bloquent ce mouvement-là interdisent même que l'eau soit ramenée de Lounyasenge vers Vitsumbe et demandent que toutes les populations quittent les zones sous occupation TM23. Ça devient une arme entre les mains, non seulement du gouvernement, mais également de l'ennemi. Et c'est là la responsabilité du gouvernement pour que l'on vienne rapidement à la rescousse de cette population pour qu'elle ne puisse pas céder à la fatigue. Merci. Mais ce qui est important ici, et je voudrais le souligner, c'est que j'ai été attaqué au mois de février, j'ai été attaqué le 16 février. Et la population de Sake, bien qu'elle était placée, démunie de tout, ne pouvant même pas accepter au chat, la population me dit, ici, à ça que c'est comme le Cuba face aux États-Unis. Même si vous venez avec une superpuissance, nous ne céderons jamais les terres de Saké. J'ai retrouvé la même détermination ici, à territoire de Lubero.
Merci.
Peu importe l'éventualité d'un repli stratégique, la population se dit qu'elle est fatiguée des déplacements. Elle a fui, elle a abandonné ses chats à Kibirizi, à Kiwanja. Elle ne peut pas aller fuir vers Beni, vers Ituri, à cause des massacres. Elle n'accepte pas d'être chassée pour aller mourir de faim, de soif et de manque de médicaments à Butembo. Elle va se battre sur ce territoire, sur ces terres. Donc, nous devons capitaliser cette détermination de la population et cela expose également à des risques de massacres comme le massacre de Kishiche que nous avons déploré. Étant donné que la population ici va se battre contre l'ennemi, contre Vazemaré, l'ennemi qui considère que toutes les populations ici sont des maïmaï, va se donner à des représailles qui nous exposent au risque de massacres à grande échelle, merci, comme les massacres de Kitio, comme les massacres de Kitio, de Gazaro et autres.
Merci, on souhaite que cela ne puisse pas arriver, n'est-ce pas, qu'on ne puisse pas confondre les Maïmaï avec la population Maïmaï. On souhaite que, n'est-ce pas, que cela ne puisse pas arriver. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Radio Capi. Vous suivez en ce moment votre magazine Parole aux auditeurs. Nous parlons aujourd'hui de la situation sécuritaire au Nord Kivu où plusieurs positions de l'armée congolaise et ses partenaires ont de nouveau été ciblés par des bombes larguées depuis les collines occupées par les rebelles du M23 dans la zone de Mubambiro, territoire des Masisi. C'était pendant les violents affrontements qui ont opposé hier mardi ces rebelles du M23 au FARDC les groupes locaux. Les sources diversifiées dans la zone parlent de quelques victimes civiles. Pendant ce temps, la situation humanitaire se détériore davantage. C'est avec notre invité Jean-Baptiste Mouine de Kwasekwa, qui est député national honoraire et un des notables de Goma Nord Kivu. Il est secrétaire général adjoint de l'ECID, parti membre de la coalition Lamuka. Il était membre de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale pendant la législature 2018-2023. Si vous voulez aussi réagir, vous pouvez appeler au 081-890-63-30 ou au 081-890-49-69.
Pour s'informer, de plus en plus d'internautes choisissent radiocapi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radiocapi.net et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site, plusieurs propositions. Exprimez votre opinion. Écoutez les résultats de cette consultation sur l'antenne chaque jour à 8h45 et après les infos de 16h30 sur radiocapi.net.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Voilà, on ouvre une fois de plus notre standard. On me signale, n'est-ce pas, que José Mwanamundondo est là. Il intervient depuis Mbandaka. José Mwanamundondo, bonjour. José Mwanamundondo, est-ce que vous êtes là?
Le docteur Michael, à partir de la ville de Bukavu.
Non, je parle plutôt de José. José n'est pas là.
Je suis en ligne depuis la ville de Mbandaka.
Ok, allez-y, José Mwanamundondo.
Oui, bon. La question sécuritaire dans notre pays, donc cette situation, moi, je trouve ça très complexe, parce que dans un état sérieux, on ne peut pas confier la responsabilité de la sécurité d'un pays à un autre état, quelle que soit la faiblesse de ce pays. Alors, la question est simple. Les Congolais, eux-mêmes, n'ont pas l'amour de leur patrie. Vous voyez, il y a des trahisons par-ci par-là, les militaires sont impliqués, les politiciens, les civils eux-mêmes. Dans cette situation, comment nous allons faire? Donc, il serait mieux qu'il y ait la prison nationale. Après, nous allons combattre les ennemis et nous allons les battre.
Merci.
C'est un peu ma proposition.
Voilà, vous prenez les renforcements de la cohésion nationale. Le docteur Michael Bolingo, depuis Bukavu, on vous écoute.
Oui, bonjour, très cher Radio Capi. Je salue l'invité, un grand notable, M. Kacheko, à qui on se connaît bien dans la vie de Goma. Alors, j'ai suivi la thématique d'aujourd'hui, c'est quand même bien. Nous devons aussi comprendre que c'est que moi, je suis pessimiste de notre armée. Du moment où les anciens, donc, sont les anciens généraux qui continuent à diriger notre armée, nous ne gagnerons jamais la guerre. Pourquoi? Parce que tout ce monde-là sont corrompus. Ils sont ici de différents mixages, de rébellions, de différentes guerres. Voire même les autorités qui gèrent aujourd'hui le pays. Vous n'allez pas me contredire que toutes les autorités à la tête du pays sont ici de différentes rébellions, sauf on peut dire le président de la République à un certain temps. Alors, sous le dossier, vous savez, lorsqu'il y a la guerre, il y a toujours ce genre de mouvement de personnes. Qu'est-ce que moi je dirais au gouvernement, ce n'est pas sa sœur, s'il vous plaît. Cherchez des moyens par lesquels nous pouvons quand même aider cette population. Parce que quand vous arrivez dans le cas des réfugiés, c'est quand même catastrophique. Aujourd'hui, nous sommes en train d'attendre des autorités, sont en train de détourner des milliers de dollars. Mais aucune de ces autorités n'a jamais pensé à aller voir les cas de réfugiés. C'est ainsi que, comme nous sommes en guerre, j'encourage toujours le chef de l'État qui est en train de se mener jour et nuit pour voir comment nous pouvons trouver la stabilité. Mais quelque part, il doit aussi restreindre, diminuer ses voyages, parce que le coût de ses voyages peut aussi aider quelques réfugiés. Au-delà de ça, j'invite l'Église catholique, les organisations de la société civile à venir aider quand même notre population qui est en souffrance.
Merci, docteur Michael Bolingo.
Il y a beaucoup de gens qui manquent des médicaments, manquent de la nourriture, de
l'habillement,
et ils sont même insécurisés.
Voilà. Dans... Compris, docteur Michael Bolingo. On va aussi écouter François Okunji Lange qui nous appelle depuis Chikapa.
Oui, bonjour Marcel, et bonjour à honorable...
C'est plutôt Guy Maté. Bonjour François.
Bonjour Guy Maté, bonjour honorable Jean-Baptiste qui est avec vous aussi.
Voilà, allez-y.
Merci bien. Pour d'abord, félicitations pour la thématique du jour. La vie humaine est sacrée, monsieur Guy Maté. quant à la situation humanitaire, quand la situation humanitaire se dégrade sous les yeux du gouvernement central et de la communauté internationale, c'est un chaos de la responsabilité ensuite. C'est-à-dire quoi? Un bon parent, lorsque ses enfants ou l'un de ses enfants est attaqué, il doit même abandonner le travail pour donner la vie à son enfant, quel que soit sa trésorerie. Donc, dans les cas sous examen, notre parent, c'est le gouvernement congolais. Le gouvernement congolais qui doit faire dans toutes ses prérogatives rétablir la paix au niveau de l'Est, au lieu de gaspiller le temps de voir venir à Luanda avec des accords qui n'aboutissent pas. On doit réformer l'armée, on doit encourager notre armée, la liste, pour attaquer l'ennemi qu'attendre les aides extérieures qui n'aboutissent pas toujours à des résultats meilleurs. Merci. Guy Maté.
Merci François Okunji. Nous revenons à notre invité Jean-Baptiste Kasekwa. Face à cette escalade, n'est-ce pas, des combats sur le terrain, face à ces drames humanitaires, les partenaires de la RDC au niveau régional, au niveau, n'est-ce pas, de l'Union africaine et des Nations unies, ont décidé de réactiver le processus de Luanda, notamment. Et à cet effet, on annonce, n'est-ce pas, une possible rencontre entre les présidents congolais et rwandais dans le cadre d'un règlement pacifique de cette crise. À votre avis, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette rencontre si elle arrivait à se matérialiser?
Alors, le processus de Luanda a été est mal parti parce qu'il a mal posé le problème. Lorsque vous lisez la feuille de route de Luanda d'ici juillet 2022, cette feuille de route stipule que la cause du problème, c'est la paix, c'est la question des retours sécurisés de réfugiés congolais basés au Rwanda et dans des pays voisins, alors que nous sommes victimes d'une guerre d'agression. Nulle part, ou par la feuille de route de Rwanda, on signale qu'il s'agit d'une guerre d'agression et qu'il faille adopter des sanctions contre les agresseurs. Et donc, de mon point de vue, une éventuelle rencontre entre Kagame et Félix s'est dit déjà vécu. Il y a eu rencontre en novembre 2008 entre Kabila et Kagame. Ils ont signé des accords secrets. Et l'un des résultats, on a vu opération Umoja Wetu, l'armée rwandaise être autorisée à intervenir. On a assisté à une mascarade, Kunda être remplacé par Bosco Ntaganda. Et cela a justifié, a précédé la signature du fameux accord du 23 mars 2009, qui a consisté finalement à consacrer l'installation des agresseurs dans le commandement de notre armée. Et donc, une rencontre Kagame Félix, je n'y vois pas grand-chose. Je soutiens plutôt l'idée de la restauration de la cohésion nationale pour que, comme un seul homme, toute la nation se mobilise pour exiger des partenaires l'adoption des sanctions financières, des sanctions économiques contre le Rwanda, parce que c'est le seul langage que le Rwanda écoute. Mais pour que nous amenions les partenaires internationaux à nous prendre au sérieux, à respecter les Congos, eh bien, il faut restaurer la cohésion nationale. Merci. Qui est brisée depuis longtemps. Merci. À la suite de beaucoup de faits, depuis les élections de 2018, les élections de 2023, eh bien, il y a péril à la demeure.
Merci honorable. Donc, il faut renforcer la cohésion nationale, c'est ça, ce que vous prenez, n'est-ce pas? Mais on va écouter les derniers intervenants. Hein. Il intervient et puis on va vous redonner la parole pour que vous puissiez conclure. C'est l'ingénieur Sami Ngandou qui intervient depuis la ville de Lubumbashi. Sami Ngandou, vous êtes là?
Oui, je suis là.
Allez rapidement, s'il vous plaît. On vous écoute.
Oui, merci pour la parole. J'ai dit aussi bonjour à l'invité et à toutes.
On n'a plus assez de temps. Hein. Allez droit au but.
Ok, merci. Par rapport à la question ou la thématique qui est sur la table, moi, je pense que pour que cette paix revienne, la première des choses, il faut que nous, les Congolais, nous ayons cette conscience-là de conquérir ou soit de repousser l'ennemi. Je pense que si notre armée quitte d'abord et améliore ce mode d'opération. Et là, ça doit pousser. Parce qu'à toute fois que l'armée mène les combats, il y a aussi un certain moment, il reste calme et ça aide aussi l'ennemi à se préparer pour revenir encore avec une autre force. Si au moins l'armée commence à opérer, s'il opère directement et pour pousser l'ennemi définitivement, cela pourra améliorer la.
Merci beaucoup, merci, on a compris. Honorable Jean-Baptiste Cassé, quand nous sommes arrivés à la fin de cette émission, un mot, le mot de la fin, n'est-ce pas, pour finir l'émission.
À la fin, c'est qu'il y a une très grande menace. La population de Kanyabayonga Kirumba, qui a fui depuis Bunagana, depuis Boubaré, jusqu'ici, ne veut plus attendre parler des replis stratégiques. Cela nous expose à un très grand danger de l'expression d'un mécontentement de la population contre son armée. Il faut éviter ces risques en prenant des mesures pour mettre en place un commandement des FARDC et des services de sécurité qui permet de rétablir la confiance de la population vis-à-vis de son armée, parce que cela nous permettrait non seulement d'empêcher ces crimes qui seraient commis entre armée et population, intéresserait les lignes de l'ennemi, mais également empêcher la progression de l'ennemi d'Arubero, permet d'éviter des éventuels massacres qui seraient commis par l'ennemi, qui considère toute la population de ce territoire d'Arubero-Butembo comme des Maïmaï. Et donc il y a extrême urgence, mais également l'urgence humanitaire pour qu'il y ait des solutions pour l'accès à l'eau, à la sécurité alimentaire par les moratoires dans le parc et le renforcement de l'assistance humanitaire, et doter les hôpitaux du coin des médicaments pour que les déplacés accèdent gratuitement à ces soins. Ces mesures-là peuvent être adoptées pour sauver rapidement la situation.
Voilà, merci. C'est par ces propositions que nous terminons cette émission. Nous disons merci, n'est-ce pas, à notre invité Jean-Baptiste Mouindo Kasekwa, ainsi qu'à tous ceux qui sont intervenus dans cette émission. Merci également à Jean-Noël Mokondo, qui est à la technique, et Blaise Chindani, qui l'a réalisé et coordonné sous la supervision de Martin Sebujangwe, à la présentation Guy Maté. Merci une fois de plus et bonne suite des programmes sur Radio Capi. On se retrouve demain avec un autre thème.